Chapitre 33. Callan se réjouissait de quitter la citadelle, un lieu où s'étaient déroulés tant de drames. Kara y était morte, et de nombreux soldats aussi, et le retour de Richard dans le monde des vivants n'effaçait pas l'horreur de l'avoir vu sur son lit de mort puis sur un bûcher funéraire. L'inquisitrice était hantée par l'ordre qu'elle était passée à un souffle de donner. Si les soldats avaient embrasé le bûcher, tout aurait été perdu, de quoi avoir des cauchemars jusqu'à la fin de sa vie. Pour l'heure, il fallait ne plus y penser. Richard était vivant, rien d'autre ne comptait. Le passé, et plus encore ce qui aurait pu virtuellement se produire, n'importait pas. À présent, il fallait aller de l'avant et faire ce qui s'imposait pour vaincre Sulakhan. Callan était également soulagé de s'éloigner des manuscrits soléiens. Ce qu'il révélait la perturbait, car ça contredisait tout ce qu'elle avait appris dans sa jeunesse, en particulier l'enseignement des sorciers sur la place de la magie dans le monde. Les récentes découvertes de Richard avaient balayé tout ça. Désormais, Callan se sentait perdu dans un monde qu'elle croyait pourtant connaître. De ses certitudes, il ne restait plus que des ruines. Que n'aurait-elle pas donné pour refuser de croire à ces dévastatrices nouveautés ? Les tenir pour des mythes ou des théories farfelues aurait été si rassurant, mais c'était impossible. D'abord parce qu'elle avait confiance en Richard, qui n'aurait pas traduit ses textes de travers, et ensuite parce que Nietzsche abondait dans son sens. Si elle avait foi en Richard, la magicienne était assez lucide et tenait suffisamment à lui pour ne pas le laisser s'égarer sur des voies sans issue. En outre, si étrange que ce fût, Callan trouvait ses nouvelles connaissances réconfortantes. Parce qu'elles étaient la vérité sans doute, mais il n'y avait pas que ça. Pour un esprit comme le sien, il était excitant de découvrir et d'explorer une cosmogonie qui remettait en question à peu près tout ce que les gens tenaient pour acquis. C'était comme jeter un coup d'œil derrière le rideau de la création. Les manuscrits apportaient un éclairage inédit sur des choses, les prophéties par exemple, que la jeune femme n'aurait jamais eu l'idée de remettre en question. Du coup, elle se sentait fort mécontente d'avoir été abusée toute sa vie par les déclarations bouffies de certitude et d'arrogance des autorités établies de tout poil. Grâce aux découvertes de Richard, une multitude de domaines qu'on prétendait impossibles à explorer devenaient accessibles à la compréhension des simples mortels. Le monde venait de changer, et Callan aurait besoin de temps pour s'habituer aux nouvelles règles du jeu et aux nouveaux défis à relever. Grâce au savoir exhumé par Richard, elle avait le sentiment de posséder les outils nécessaires pour s'atteler à ses tâches. À présent, on savait au moins ce qui n'allait pas, et ça aiderait Richard à accomplir sa mission la plus importante, en finir avec les prophéties. Penser qu'une prophétie prédisait qu'il en finirait avec toutes les prophéties avait quelque chose de délicieusement ironique. En un sens, ça tenait d'une certaine justice poétique. Théoriquement, au moins, les découvertes de Richard avaient commencé à démasquer les prophéties et c'était déjà un grand pas. Même si elle comprenait parfaitement le sens profond des manuscrits, Nietzsche aussi avait été profondément ébranlé. À l'origine, une sœur de la lumière, elle avait passé la plus grande partie de sa vie au Palais des prophètes, un lieu où on se consacrait à l'étude des prophéties et à la formation des détenteurs du don. Tout ce que Nietzsche y avait appris, tout ce qu'elle croyait savoir, n'était qu'illusion et malentendu. Dès son séjour au palais, Richard avait commencé à s'attaquer aux prophéties, démontrant leur duplicité. Après des années, il tenait la preuve que les prédictions ne reposaient sur aucune base solide. Les manuscrits soléiens n'étaient pas un mythe, donc le mythe, c'était les prophéties. Par bonheur, Nietzsche n'avait jamais été vraiment fasciné par les prophéties. En conséquence, elle devait être bien moins troublée qu'elle l'aurait pu. De son propre aveu, elle avait toujours tenu pour une corvée l'étude des prédictions. D'autres sœurs de la lumière, en revanche, y prenaient un plaisir fou. Passant des centaines d'années sans quasiment sortir des catacombes, certaines collègues de Nietzsche s'étaient enivrées de prophéties, imaginant qu'elles les comprenaient pour de bon et y croyant dur comme fer. Callan se demanda ce que Verna penserait de tout ça, s'ils avaient un jour le bonheur de la revoir. Avec de nombreuses sœurs de la lumière, la nouvelle dame abbesse vivait en Aydindril, dans la forteresse du sorcier. Ayant été elle-même désorientée par la remise en cause de tout ce qu'elle croyait, qu'Alan soupçonnait que ces femmes seraient horrifiées d'apprendre que le monde ne ressemblait pas à ce qu'elles pensaient savoir de lui et de très loin. Comme toujours quand il était question de la vérité, certaines refusaient de la regarder en face et se voileraient les yeux pour ne pas voir l'épreuve. Alors que la petite colonne traversait la ville, les habitants regardaient avec de grands yeux les 10 colosses de la première phalange qui chevauchaient en compagnie de 3 morts de cite en uniforme rouge, escortant la mère inquisitrice, le seigneur Hall et une inconnue blonde. Mais ces gens, au fond, savaient-ils qui était le seigneur Hall? Toute leur ville n'avait connu qu'un chef, l'évêque Anis Arc. Quant au vrai maître de Dara, ils ne l'avaient même jamais aperçu. Dans les rues étroites, le bruit des sabots des chevaux sur les pavés se répercutait tout au long des bâtiments serrés les uns contre les autres. À part dans l'avenue principale, on trouvait uniquement des constructions en bois à 2 niveaux. Les façades n'auraient pas souffert d'être rafraîchies, en supposant qu'elles aient jamais été peintes, mais il aurait d'abord fallu rénover le bois vermoulu à force d'être exposé à l'humidité. Les boutiques qui occupaient le rez-de-chaussée des bâtiments vendaient essentiellement des produits de première nécessité. Dans les terres noires, la priorité était de survivre et le luxe passait au second plan. Comme si elle était assiégée en permanence par la forêt environnante et les créatures qui y rôdaient, Saavedra vivait dans l'angoisse. Dans les rues parallèles, les marchands ambulants qui proposaient du pain ou de la viande regardaient passer les voyageurs d'un air méfiant et aucun ne tenta de venir leur proposer sa camelote. Comme toujours dans les terres noires, le ciel plombé ajoutait à la sensation de menace. Callan se demanda depuis combien de temps elle n'avait plus vu le soleil. À force, le manque de lumière devenait déprimant, et cette humidité qui s'attaquait à tout, y compris aux rênes et aux parties exposées de la selle. L'inquisitrice secoua sa capuche pour chasser l'eau qui s'y accumulait, et pourtant il bruinait plus qu'il pleuvait. Lâchant les rênes d'une main, Callan flatta l'encolure de sa jument baie, histoire de la rassurer. Des cicatrices sur la croupe de la bête lui avait appris que ses cavaliers précédents n'avaient pas autant de scrupules, usant de la cravache pour un oui ou pour un non. Probablement touchée par l'attention, la jument hennit de satisfaction. Richard avait choisi un puissant hongre noir qui supporterait sans peine son poids. À voir l'animal piaffer chaque fois que le petit groupe s'arrêtait, on devinait que ce cheval avait du tempérament. Dans sa tenue noire, son épée au côté, Richard était superbe sur cette imposante monture. Qu'il était émouvant de le voir de nouveau chevaucher, avec la flamme de la détermination dans les yeux, même s'il restait un peu voilé par la souillure de Jit. Déjà ravi d'avoir quitté la citadelle, Callan jubila dès que la colonne fut enfin sortie de Saavedra, loin du regard de gens qui étaient peut-être toujours loyaux à Anis Arc, voire à Sulakan. Car l'empereur pouvait avoir des sbires à lui partout dans les terres noires. Mais hors de la ville, tout danger ne serait pas écarté. Comment savoir qui pouvait se terrer dans la forêt, préparant une embuscade? Le lieutenant Pfister aurait voulu emmener beaucoup plus d'hommes, et on ne pouvait pas lui donner tort, mais selon Richard, leur salut dépendrait de leur mobilité et de leur vitesse de réaction, pas de l'aptitude à livrer une bataille rangée. Dans cet ordre d'idées, les chevaux de rechange étaient bien sûr très importants. Pour rassurer Pfister, Cassia avait lancé que 3 morts de cite remplaçaient avantageusement des dizaines de soldats. L'officier avait moyennement apprécié la remarque, mais gardait pour lui ce qu'il en pensait. Depuis toujours, la première phalange était l'ultime ligne de défense du seigneur Hall, certes, mais les morts de cite pouvaient en dire autant. Pour ce qu'en savait Callan, aucune hiérarchie n'avait jamais été clairement établie. Cela dit, les femmes en rouge n'avaient pas besoin de ça pour estimer qu'elles occupaient la première place et elles ne prenaient pas la peine de le cacher. Comme le chef et les officiers de la première phalange, Richard refusait d'entrer dans cette querelle. Quand on avait plus d'ennemis que nécessaire, on ne se compliquait pas la vie avec ses alliés. Une fois hors de la ville, Richard prit la tête de la colonne, lui imposant un rythme plus que soutenu. Face à ceux qui n'étaient pas très loin d'une charge de cavalerie, les demi-humains à pied auraient un gros désavantage. Mais par la seule force du nombre, ils pouvaient arrêter presque n'importe qui. Sauf des destriers lancés au galop et qui n'hésiteraient pas à piétiner tout obstacle dressé sur leur chemin. Arrivant à un carrefour, Richard tira sur les rênes de sa monture et 2 des 3 guides le rejoignirent.
À droite ou à gauche ?
À droite, c'est le chemin le plus court,
répondit un des hommes.
Mais à gauche, le terrain est plus praticable, même si ça allonge la route.
Richard se tourna sur sa selle pour regarder Nietzsche.
Tu sens quelque chose sur l'une ou l'autre de ces voies ?
La magicienne croisa les mains sur le pommeau de sa selle et se concentra.
Rien du tout.
Mais il ne faut pas s'y fier parce que nos ennemis peuvent se dissimuler avec leurs pouvoirs occultes.
Richard sonda à son tour les deux routes. Il était inquiet, vit Callan, et pas à cause des demi-humains. La pire menace pour l'instant, c'était Samantha, et contre elle, les soldats ne pourraient pas grand-chose. Les morts de Sith risquaient de n'être guère plus efficaces. S'il était utilisé contre elle, ces femmes pouvaient s'approprier le pouvoir d'un adversaire détenant le don. Mais qui pouvait connaître la nature exacte du pouvoir de la jeune magicienne ? Après tout, elle était née à côté du troisième royaume qui avait pu la contaminer. La seule certitude, c'était qu'elle serait une ennemie puissante et inventive. Le gros handicap des morts de Sith restait l'inertie de leur agiel. La magie de cette arme étant liée au seigneur Hal, elle ne fonctionnerait pas tant qu'il n'aurait pas recouvré l'usage de son don. Était-ce la seule limite que cette situation imposait aux femmes en rouge ? Callan aurait été bien incapable de le dire. Quand on savait de quoi Samantha était capable, imaginer une embuscade en pleine forêt avait de quoi glacer les sangs. Et s'il fallait traverser des canyons ou longer des falaises, ce serait encore pire. Faire s'écrouler une montagne ne présentait guère de difficultés pour la jeune magicienne, elle l'avait prouvé dans un passé récent. Alors, que fallait-il choisir ? Moins de distance sur un terrain accidenté ou plus sur une voie relativement dégagée ?
J'opte pour le chemin le plus court,
finit par dire Richard en s'engageant sur la route de droite.
Le temps est le facteur clé.
Avec des montures de rechange, ça paraissait une bonne décision. Assez vite, la route commença à monter et descendre au fil d'une série de collines de plus en plus hautes. Bien trop étroite et rocheuse, cette voie n'aurait pas été adaptée à des chariots ni même à une charrette. Avec des chevaux, voire des mules de bât, ça n'allait pas trop mal. Tout autour, la forêt empestait la moisissure. En plusieurs occasions, la colonne dut s'arrêter pour que les soldats déblaient les troncs d'arbres morts qui bloquaient le passage. En fin de journée, les voyageurs atteignirent une large corniche qui faisait le tour d'une très haute colline, presque une montagne, et leur offrit une vue très dégagée dans toutes les directions, sauf derrière eux. La flèche rocheuse qui se dressait au-dessus de leur tête étant bien trop escarpée pour qu'une attaque puisse venir de là, l'endroit paraissait relativement sûr.
« Ici, nous verrons nos ennemis venir de loin, »
dit Richard en sondant les alentours.
« La nuit tombe vite. Nous allons camper. » Sur les bas-côtés de la piste, il y a assez de broussailles pour nourrir les chevaux.
« Vous voulez dresser un camp ici alors que les demi-humains pourraient nous repérer à des lieux de distance ?»
demanda Cassia.
« Je choisis un endroit d'où nous pourrons les voir de loin. S'ils viennent, ce ne sera pas par le haut ni par les flancs, bien trop escarpés pour ça. Donc ça nous laisse deux directions à surveiller, devant et derrière. Alors, exposé ou pas, ce site me paraît très facile à défendre. De plus, tu vois cette niche naturelle sur la paroi rocheuse ? S'il pleut beaucoup, elle fera un abri convenable.
« La nuit promet d'être humide et désagréable, »
marmonna Pfister.
« Si on faisait un feu pour se tenir chaud. »«
Je n'aime pas l'idée de signaler notre présence ici, »
répondit Richard.
« Inutile de faciliter la tâche à ceux qui nous cherchent s'ils existent. »«
Avec mon don, je chaufferai les rochers, »
proposa Nietzsche.
« Ça nous empêchera de crever de froid. »
Richard acquiesça et sauta de sa selle.
« Pfister, je veux des sentinelles qui surveillent les deux directions dangereuses. Mais doublez la garde surtout.
Nous sommes assez nombreux pour que chacun réussisse à se reposer un peu.
« Vous avez entendu le seigneur Hal ?»
lança Pfister en mettant pied à terre. Tous les hommes limitèrent, s'affairant ensuite à préparer le camp. Callan eut un petit sourire.
Enfin, elle allait pouvoir se blottir contre Richard pendant quelques heures et se reposer. Si c'était possible, alors que les demi-humains étaient en maraude et que le comte crépuscule égrenait le temps qui les séparait de la fin du monde. Souriant, Richard passa un bras autour de la taille de sa femme.
« Et si on mangeait quelque chose maintenant ?